Les chiffres, il y a ceux, vous savez, qu'on nous envoie quand c'est pas encore l'heure. Les chiffres de Suisse ou de Belgique, les chiffres de Twitter. Et puis les chiffres du 20h, il y a les chiffres du lendemain aussi, en l'occurrence de ce matin. Les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont sensiblement les mêmes, mais qui nous rappellent quand même qu'on s'est affairé toute la soirée sur des chiffres incomplets, sur des sondages ou des estimations, des presque résultats qu'on a comptés et comparés, affinés du mieux que l'on pouvait, mais toujours avec des pincettes, parce qu'il fallait s'en méfier, parce qu'il n'était pas tout compte fait aussi vrai qu'il le disait. Alors les chiffres, ça sert à quoi? À évaluer le résultat, le score des candidats, la participation, le taux d'abstention selon les âges, les catégories, les régions, à vous donner une indication sur les votes blancs et les votes nuls qui ne sont pas pris en compte mais que l'on compte quand même. Ces chiffres qui nous disent sans cesse à quel point nous sommes de piètres statisticiens, toujours on y revient, parce qu'avec eux on compose quelque chose, on écrit une pensée, une analyse, une théorie. Les chiffres au fond ça sert à ça, à produire un récit. Ce qui compte c'est l'histoire qu'ils nous permettent de raconter avec plus ou moins d'autorité, de pertinence, de précision, mais toujours un récit, une interprétation. Qu'est-ce que vous en faites, vous, des chiffres de l'élection?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui saura-t-elle faire parler les chiffres? Autrice, intellectuelle et rabbin, connue pour son attachement aux valeurs de la laïcité, de la démocratie et de la République, elle est venue nous aider à mieux cerner ce qui s'est joué hier et ce qui se jouera peut-être demain, et puis à prendre un peu de hauteur. Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour, merci de cette invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous. Que faites-vous des chiffres, vous, dans la vie, ceux d'hier par exemple, ceux du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle?
En vous entendant parler, je me souvenais cette émission de notre enfance, voilà, les chiffres et les lettres, ouais. De quelle manière est-ce qu'il fallait les combiner, et on finissait toujours par dire le compte est bon, mais en fait dans une élection, le compte il est jamais bon, parce qu'effectivement, comme vous l'avez très justement dit, tout dépend de l'interprétation qu'on va donner. Vous pouvez faire dire aux chiffres tout et son contraire.
Ce qui est le cas d'ailleurs, quand on voit les analyses qui sont faites encore ce matin, certains y voient une victoire, d'autres une défaite, pour d'autres c'est plus compliqué, il s'agit toujours de récits.
Oui, j'entendais à l'instant sur votre antenne, voilà, qu'on parlait de plusieurs France, celles qui croient au lendemain, celle qui n'y croit pas, celle qui a confiance en l'avenir, celle à qui l'avenir inspire plutôt de la défiance. Et ça, c'est vraiment pour moi, voilà, la question de l'interprétation qui fait que pour un récit similaire, pour des mêmes nombres ou des mêmes chiffres, on ne va pas du tout s'inscrire dans la même histoire.
Mais ce score, quand même, de Marine Le Pen, 41,2%, près de 3 millions de voix et 7 points de plus que lors de la dernière élection en 2017, ce score, quelle en est votre interprétation ?
En fait, de la même manière, on peut l'interpréter, et on a entendu ce chiffre être interprété de manière très différente. Il s'agit d'une grande victoire, puisque c'est un chiffre très élevé. D'un autre côté, on l'a dit, on l'a beaucoup répété, la différence de points est assez importante, et donc on a l'impression que la victoire était finalement très marquée du camp d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, voilà, à nouveau, on peut interpréter les choses de manière très différente, et donc on se retrouve tous aujourd'hui à vivre avec des émotions très fortes. Je crois qu'on a vécu une journée et une soirée, et peut-être ça se prolonge ce matin, des moments d'émotion extrêmement puissantes. Moi, l'émotion qui s'est emparée de moi hier soir, et avec laquelle je vis encore ce matin, c'est une forme de gratitude. Tout de même, c'est-à-dire le sentiment quand même d'avoir échappé à quelque chose qui me terrifiait.
Parce que ça représenterait quoi pour la France?
Je crois que ça représenterait une certaine victoire... De la peur, de l'anxiété, certaines victoires aussi de la nostalgie. Alors, la nostalgie, elle n'est pas nécessairement mauvaise par essence, mais parfois, elle vous pousse à vous raconter, justement par les narratifs, un passé fantasmé, un passé tel qu'il n'a jamais vraiment existé. Une peur de se projeter dans l'avenir qui pourrait être, dans ce qui pourrait encore surgir.
Ouais, c'est passionnant. Donc, pourquoi, Delphine Horviller, le discours du « c'était mieux avant », qui consiste à dire que l'avenir d'un pays résiderait dans un retour en arrière, un retour à la tradition, a-t-il à ce point prospéré pendant cette campagne?
Je crois qu'il a prospéré pas juste dans la campagne, qu'en fait c'est le propre aussi de toutes les crises qu'on traverse, et Dieu sait qu'on en a traversé beaucoup, des crises malheureusement ces dernières années, des crises sanitaires, des crises politiques. Le propre de ces crises, c'est qu'elles nous placent dans un sentiment qu'il nous faut réinventer non pas l'avenir mais le passé. C'est-à-dire que tout à coup, on va se raconter quelque chose d'assez fantasmé. On parle d'un bon vieux temps qui la plupart du temps n'a jamais exister.
Oui, c'est ça, c'est cette idée rassurante d'une stabilité qui est entretenue en fait. L'idée que certaines choses ont toujours été ainsi et doivent le rester, même si c'est pas le cas.
Oui, c'est pas le propre des discours religieux. Vous savez, moi, je l'entends beaucoup, vous en doutez, dans le discours politique, dans le discours religieux et le discours politique. Mmh. En fait, on a l'impression que, voilà, à chaque fois que surgit une angoisse, que se profile, voilà, quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser dans les temps qui viennent, alors on a tendance à se raconter nos fondements, nos origines, avec des histoires de pureté, par exemple.
Je sais à quoi vous pensez, là. Vous pensez à un film auquel beaucoup ont pensé dernièrement suite à la mort de Jacques Perrin, Les Choristes.
Oui, absolument, absolument. J'ai beaucoup pensé à ce film ces derniers jours en voyant les hommages qui étaient rendus à ce grand acteur. Pour moi, il incarne toujours, il a eu bien des rôles, mais il incarne toujours ce musicien dans Les Choristes, ce chef d'orchestre. On comprend dans le film qu'il est devenu grâce à un homme qui a croisé sa route, qu'il a même oublié pendant un temps du récit et qui ressurgit dans ce film. Et c'est un film très intéressant du point de vue de la nostalgie parce que, en fait, on pourrait s'imaginer qu'il raconte un bon vieux temps, mais on comprend bien en voyant ce film que non, c'était pas mieux avant. Loin de là.
Oui.
Et tous ces discours de « oh là là, comme c'était bien dans le temps », en fait, sont souvent une reconstruction, une forme de mensonge. En fait, ce film, il est aussi très puissant pour une autre raison, c'est qu'il nous raconte que dans la vie, comme ce personnage, on devient qui on devient, parce qu'on a traversé des épreuves, mais qu'on a rencontré en chemin des étrangers, des étrangetés, des gens qu'on n'était pas censé croiser et qui, par leur différence, par le fait qu'ils ne s'inscrivaient pas exactement dans notre histoire à l'origine, nous ont changés. Et ça, je trouve que c'est un vrai message politique.
Delphine Orvidor, en quoi se reporter sans cesse à la tradition et à une vision linéaire du passé, c'est être au fond dans une négation de l'histoire?
Je crois que c'est même plus que ça, c'est dans une négation de l'histoire et une négation de la tradition même. En fait, on s'inscrit dans des traditions quand on écoute bien les traditions qui nous ont construites. Et là, je parle un instant, voilà, des traditions religieuses, quel que soit notre rapport à la foi. Vous savez, toutes nos traditions religieuses, elles racontent la possibilité d'un changement. On vient de vivre une campagne électorale au moment même où au sein des trois religions monothéistes on vivait la fête de Pâques, la fête du Ramadan pour les musulmans aujourd'hui, la fête de Pessah pour les juifs qui vient de s'arrêter. En fait, ces trois récits religieux, symboliquement, allégoriquement, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent la possibilité de changer. Le fait que nos traditions se construisent sur du renouveau, sur du changement, sur du dépassement de notre histoire. Il y a quelque chose d'assez fou de se dire que souvent, au nom de la tradition, des gens vous disent « il faut rien changer, revenons au monde tel qu'il était », alors que tous nos récits sacrés nous disent « sois capable de changer, sois capable de percevoir qu'il y a dans ta vie des vents nouveaux qui soufflent, que tu fais des rencontres qui t'altèrent au sens premier du terme, c'est-à-dire qui font que par cette altérité, par cet autre que tu rencontres, tu ne seras plus jamais le même.
Alors au fond, si je vous entends bien, le passé peut nous permettre, peut nous enseigner à douter.
Continuellement, je crois que le passé nous dit éloigne-toi de toutes tes zones de certitude, éloigne-toi de tout ce qui fait de toi un sédentaire, pas juste géographiquement, mais un sédentaire dans ta façon d'être au monde. L'idée que tu serais déjà arrivé une fois pour toutes, que tu aurais trouvé ta maison.
Vous savez, c'est drôle, ça me fait penser à la discussion qu'on avait la semaine dernière à ce micro avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui semblait dire qu'on était moins dans une époque propice au doute qu'au soupçon. Qu'est-ce que ça vous inspire? À vous Delphine Orvidor.
Oui, on se rend compte que beaucoup de gens autour de nous veulent non seulement des certitudes, mais sont également prêts à accuser beaucoup de gens qui questionnent leurs certitudes.
Et de quoi ça témoigne?
Je crois que ça témoigne de, encore une fois, de tout ce que déclenchent les crises qu'on traverse. Vous savez, les crises, par définition, déclenchent de la peur. Et la peur, elle peut avoir deux effets dans nos vies. Elle peut nous pousser à l'action ou elle peut inhiber l'action. On le sait, quand on ressent de la peur, soit on est capable justement à partir de cette peur de se mettre en mouvement, soit au contraire, cette peur, elle va faire de nous voilà, des êtres muets. Il y a un mutisme de la peur, une inaction, une paralysie qu'elle crée dans nos vies.
Et puis le soupçon, c'est tout simplement un manque de confiance vis-à-vis notamment de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un discours produit par les institutions. Pourquoi est-ce qu'on perd confiance aujourd'hui?
Je crois que d'abord il y a beaucoup de discours politiques qui nous invitent à perdre confiance et puis finalement à plus savoir quels sont tout simplement nos repères. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faudrait analyser fortement, et on va avoir à l'analyser dans les semaines qui viennent aussi, c'est la question de la rupture intergénérationnelle.
Oui.
On a eu l'impression ces dernières années qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une défiance, elle a toujours existé, mais elle est renforcée, du lien entre les générations. Vous allez entendre une jeune génération qui critique beaucoup, on a entendu cette expression « ok boomer » beaucoup ces dernières années. C'est-à-dire cette idée que finalement, nos parents, nos grands-parents se sont plantés, ont pris une mauvaise route, etc. Et vis-à-vis de ça, on entend une autre génération qui va critiquer une jeunesse qui serait, elle, à côté de la plaque ou désengagée ou pas assez mobilisée.
Alors le grand défi aujourd'hui du chef de l'État, par exemple, mais pas seulement, ce serait de recréer du lien, tout simplement.
De recréer du lien, quelque chose qui fait qu'on peut s'inscrire, tout en étant critique, dans une forme de gratitude vis-à-vis de ce qui a été avant. Ça, c'est quelque chose de pas facile à faire, mais d'essentiel. Je trouve que pour se construire dans la vie, il faut avoir une certaine gratitude à l'égard du monde tel qu'il nous a été donné. Et attention, ça nous empêche absolument pas d'être critique, parfois férocement critique vis-à-vis de nos héritages. Mais je pense qu'on va nulle part en s'imaginant qu'on va construire le monde dans un tabula rasa.
Celle qui n'est pas du tout critique dans cette émission, vous la connaissez évidemment, Delphine, c'est la culture et son actualité qui ne nous la fait pas. Que se passe-t-il donc aujourd'hui lundi 25 avril ?
Le grand plaisir de nommer Monsieur François Allume.
Au total, le danseur François Allu a été sacré samedi soir étoile à l'issue de la représentation de la Bayadère de Rudolf Nureyev, athlétique et atypique, vu notamment au jury de Danse avec les Stars. Le danseur de 28 ans, connu pour ses envolées scéniques et ses pirouettes très physiques, avait rejoint la compagnie de l'Opéra de Paris en 2010. Premier danseur adulé du public, il attendait d'être sacré étoile depuis 2014.
Je ne vais pas entrer dans les différentes interprétations du titre de la Biennale, mais je pense qu'il montre le rôle de la dimension onirique et aussi une sorte de surréalisme dans l'exposition.
La 59e édition de la Biennale de Venise a dévoilé samedi un palmarès qui fait la part belle aux femmes créatrices et engagées. Le Lion d'or de la meilleure artiste a été ainsi attribué à l'afro-américaine Simone Lee et ses sculptures qui subliment et mystifient la figure de la femme noire à l'ouvrage, tandis que le Lion d'or du meilleur pavillon revient à l'anglaise et figure du Black Art Movement Sonia Boyce pour sa proposition vidéo autour d'improvisation musicale sur le thème de la liberté, de toute beauté. Le vent en poupe. Après 2 ans d'absence, la ville de Berck-sur-Mer retrouve ses rencontres internationales du cerf-volant. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés du monde entier. Sur 12 kilomètres de plage jusqu'au 1er mai, 500 cerf-volistes sont attendus et le Guatemala a été choisi comme invité d'honneur. Au programme, créatures virevoltantes en tout genre, ateliers de construction, parades nocturnes et trophées de la meilleure création, que du bon.
Dans une société de consommation, un livre, les livres, profite de ce phénomène de consommation.
Et enfin, carton pour le salon. La première édition du Festival du Livre de Paris s'est refermée hier sur un succès. Près de 90 000 visiteurs se sont pressés dans les allées du Grand Palais éphémère pour découvrir notamment les auteurs et les lettres indiennes mises à l'honneur cette année. Pour en profiter encore, on pourrait écouter l'une des nombreuses émissions maison enregistrées sur place. Par exemple, la formidable librairie francophone de l'ami Kérad, qui y recevait Atik et Alice Raimi, la chanteuse Clou et Laure Leroy pour les 30 ans des éditions Zulma. Delphine Horviller, invitée de Boomerang ce matin. On a évoqué, Delphine, l'élection présidentielle. Comment ne pas parler de la guerre qui sévit toujours en Ukraine, cette guerre dont on imaginait qu'elle ne nous concernait pas vraiment, qu'elle appartenait au passé. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle réactive en nous? Qu'est-ce qu'elle réveille pour vous?
Elle réveille, je trouve, beaucoup de fantômes. Moi, je m'en rends compte autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont, depuis le déclenchement de cette guerre, comme hantés par des images de leur histoire, d'une histoire collective, d'une histoire nationale, d'histoire européenne, mais aussi parfois d'histoire très personnelle et familiale. On a l'impression de voir ressurgir des images qu'on pensait pas, effectivement, va ressurgir, comme si on s'était convaincu que tout ça était derrière nous.
Au fond, en quoi le passé ne passe-t-il jamais vraiment? En quoi le passé n'est-il jamais passé?
Je crois qu'il passe pas parce que il ne cesse que de produire des fantômes. Moi, je suis assez obsédée par ces questions-là. Vous savez, la question de la revenance, de tout ce qui, vous savez, on appelle souvent les fantômes les revenants parce qu'ils n'arrêtent pas de revenir dans nos vies. Il y a quelque chose dans des récits qu'on n'a pas fini d'interpréter, qui en fait continuellement nous rendent visite, des images, des émotions du passé. Voilà, je crois que aujourd'hui, on se les prend en plein visage. Ils deviennent particulièrement loquaces.
Mais dans une tribune que vous avez écrite pour le magazine Elle il y a un mois, vous dites qu'il va désormais falloir apprendre à redevenir des combattants. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, je pense que notre génération s'est convaincue ou a été convaincue que, était élevée dans l'idée que ces conflits étaient derrière nous et qu'on avait dépassé ça et qu'en fait il y a des combats qu'on n'aurait pas à mener. Pas juste des guerres, littéralement des combats armés, mais même, par exemple, moi j'ai l'impression que des combats contre le racisme et l'antisémitisme qu'il nous a fallu à nouveau menée et qu'il nous faudra encore mener à l'avenir. J'ai eu le sentiment que ma génération, voilà, née dans les années 70, avait grandi dans l'idée qu'on raconterait ces histoires, mais qu'on n'aurait pas aller vivre, que le monde avait compris que la guerre et ses ravages étaient si proches de nos années de naissance que finalement on serait comme immunisé, comme vacciné, notre génération.
Mais avec quelles armes est-ce qu'on se bat, Delphine Horviller?
Je crois qu'on ne le sait pas encore complètement. Je crois que pour l'instant on se bat avec des mots, on se bat avec une certaine façon peut-être d'enseigner le monde à nos enfants, puisque finalement notre génération aujourd'hui est celle qui a en charge d'éduquer la génération suivante.
Donc par des récits.
Par des récits, par des histoires, par une certaine façon de repenser aussi la géographie. Vous n'avez de pas dire à nos enfants c'est loin, ça ne t'arrivera pas, tu n'auras pas à mener ce combat, mais de leur dire peut-être que ce sera, et sans doute ce sera aussi aussi ton combat. De repenser avec eux peut-être aussi le sens du sacrifice, le sens du sacré. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à combattre et potentiellement à prendre des risques et peut-être même à mourir dans notre société? C'est une question qui a été longtemps tabou. Je crois même que ça a été le grand tabou de notre génération. On faisait un peu comme si on n'aurait plus à mourir pour rien, parce que d'autres l'avaient fait avant nous.
Qu'en est-il de l'humour, Delphine Horviller? En quoi peut-il être une arme également?
Alors je crois que c'est une arme extrêmement puissante. Je dirais que l'humour, comme les mots, sont une arme de construction massive ou de destruction massive. On le sait, avec des mots et avec l'humour, on peut détruire le monde, on peut recréer le monde. Vous parliez de Boris Cyrulnik qui a vraiment développé pour nous cette idée de résilience. Je crois qu'il y a peu d'armes de résilience aussi puissantes que le jeu de mots, que l'humour. Qu'est-ce que c'est que le jeu de mots finalement? Dans la puissance du langage, c'est la capacité avec les mots de dire attention, ce que tu as entendu n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Il y a un petit décalage de sens. Et dans ce décalage, il y a toute la puissance de monde qui reste à inventer. Donc oui, avec les mots, avec l'humour, on peut faire le meilleur. Parfois on peut faire des ravages, des dégâts. On l'a vu aussi ces dernières années avec des humoristes pas très drôles. Avec des humoristes, je veux dire par là, qui avaient un discours politique dangereux. En fait, en faisant rire, on peut déplacer des foules, on peut avoir un message extrêmement politique.
Je vous pose aussi la question, Delphine Horviller, parce qu'on en a d'ailleurs assez peu parlé pendant la campagne. On observe, particulièrement depuis la pandémie, une progression de l'antisémitisme en France. Selon un sondage Ipsos, un quart des Français interrogés pensent qu'il existe un réseau juif qui influence les milieux politiques et économiques. Le nombre d'actes antisémites recensés a bondi de 74% l'année dernière. Delphine Horviller, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Quel récit?
Eh bien, je crois qu'il nous ramène à tout début de notre conversation, en réalité, quand dans une société, il y a un sentiment d'impuissance, quand les gens se racontent une histoire où ils se disent finalement, ce qui m'arrive n'est pas de ma faute. Il y a forcément quelqu'un qui manipule, qui tire les ficelles de mon destin, qui est responsable quand moi je ne le suis pas. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, je dirais, la boîte de Pandore de l'antisémitisme traditionnel s'ouvre. Parce que à travers l'histoire, on a finalement toujours accusé les Juifs de manipuler le monde, de tenir les ficelles, de la destinée d'autres gens, c'est-à-dire d'avoir une puissance qui me serait déniée, d'avoir de l'argent, une bénédiction, quelque chose que eux auraient et que moi je n'aurais pas. Vous entendez là des bons vieux, une bonne vieille rhétorique antisémite, mais qui malheureusement est toujours réactivée dans les moments où les gens refusent souvent de faire face à leurs responsabilités ou alors se perçoivent comme étant tellement impuissants, tellement pas en mesure de contrôler leur existence. Et de fait, ces dernières années, les crises nous ont mis dans des situations où beaucoup de gens se sont sentis impuissants. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire?
Mais qu'est-ce qui a échoué quand même dans les stratégies mises en place pour combattre l'antisémitisme? Là, c'est à l'autrice de réflexion sur la question antisémite que je m'adresse.
Je crois que j'aimerais pouvoir vous dire exactement ce qui a échoué, mais il faut bien être conscient que ces stratégies ont échoué tout au long de l'histoire, malheureusement.
Mais vous dites parfois quand même, et c'est intéressant, qu'on est passé d'un combat politique à un combat identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on perçoit bien ces dernières années à quel point phénomène qu'on a appelé de communautarisme, peut-être qu'il faudrait appeler davantage de tribalisme, a fait que beaucoup de gens se sont renfermés dans des nous extrêmement restreints, d'une affiliation ethnique, religieuse. On a l'impression que beaucoup de gens, effectivement, ont d'une certaine manière piétiné des valeurs de la République qui ont été chères dans notre histoire, qui sont des valeurs d'un collectif suprême, qui est celui de la nation, du nous de la nation, au profit d'autres nous qui sont ceux, voilà, d'un tribalisme, d'un entre-soi, d'un communautarisme qui, encore une fois, a été nourri de bien des angoisses, de bien des peurs qu'il faudrait pas mettre de côté. Il y a beaucoup de gens qui ont nourri leur communautarisme de peurs réelles. Mais en réalité, il faut voir où tout ça nous mène. Et de quelle manière est-ce que, finalement, ce tribalisme et cet entre-soi nous empêchent une certaine transcendance dans la société, c'est-à-dire de voir au-delà de sa maison, de voir, de percevoir au-delà de son ancrage et de son affiliation.
Alors comment faire réémerger ce « je », cette première personne, cette identité justement qui rend possible l'idée même de république et de démocratie? Delphine Orvillard.
À nouveau, je dirais que c'est une question de perception de l'altérité dans nos vies. De quelle manière est-ce que on peut être conscient constamment et être rappelé constamment que nous sommes qui nous sommes, parce que nous avons rencontré l'autre. Ça paraît évident ce que je dis là, mais beaucoup de gens ont oublié ou ne sont pas conscients que finalement ils sont devenus qui ils sont devenus, oui, parce qu'ils ont croisé en chemin des gens qu'ils n'auraient pas dû croiser, une espèce d'étrangeté qui les a changés, qui les a construits. Et je pense que on peut renforcer le « je », la capacité de parler à la première personne du singulier, tout en étant profondément respectueux des communautés, des ancrages qui sont les nôtres, quand on reconnaît que c'est nos voyages à l'extérieur de nos maisons qui ont fait ce que nous sommes.
On va reparler ensemble de voyage, justement, juste après ce titre que vous nous avez soufflé et que vous avez presque cité tout à l'heure. Vous êtes sur France Inter avec Delphine Orvillard. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'Or qui prêchent le martyr, le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Elle est tout ce dont on avait besoin ce matin. Distance, sérénité, pertinence, réconfort, la boucle post-gueule de bois, le regard vert, jus détox, le sourire aux plantes, on aimerait qu'elle soit là tout le temps, lui aménager une petite banquette dans le studio avec une gourde à son nom pour qu'elle se sente comme chez elle. Avec son blouson noir, on est à deux doigts du perfecto ce matin, la rabbine Delphine Horviller, invitée de Boomerang pour revenir sur l'élection présidentielle dont on a eu le résultat hier. Une élection marquée quand même par une abstention record, 28,2% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour vous, que traduit cette abstention? Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Ben, ça semble dire qu'il y a une partie de la population qui n'est sensible ni à un narratif ni à un autre. C'est-à-dire que l'histoire ne les a pas convaincus. Et la vraie question qui va se poser, et je pense que c'est le défi finalement des semaines à venir, c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer cette population-là dans une histoire, dans un narratif, dans une conversation, parce qu'on n'a pas besoin de tomber d'accord. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde dans notre pays prend part à la conversation.
Et c'est ça. Et à vous entendre, c'est redonner à des individus le sentiment que leur voix compte dans tous les sens du terme.
Oui, que leur voix compte et qu'ils peuvent faire la différence. Et en réalité, je pense qu'on serait sauvés si les gens se sentaient un peu moins impuissants. Je pense qu'il y a des clés dans une société qui peut fonctionner ou refonctionner. C'est le fait d'avoir l'impression que on compte, qu'on peut faire la différence. Et puis l'autre clé, je dirais, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est la clé de la gratitude quand même. C'est d'avoir, quand on a un sentiment d'ingratitude, un sentiment de l'incapacité plus exactement de ressentir de la gratitude pour un autre, ça devient très difficile de construire ensemble.
La première fois que vous êtes allé donner votre voix, vous, dans une urne, justement, c'était quand, Delphine Horviller?
Je crois que j'avais 18 ans, je me souviens pas exactement quelle élection c'était. C'est un vrai défi que vous me lancez. Moi, j'ai des souvenirs très très forts d'accompagner ma famille, d'accompagner mes parents dans les bureaux de vote. Enfant, c'était même des moments incroyablement, je dirais religieux, vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de sacré dans le fait d'aller en famille voter, de se déplacer vers des bureaux de vote. Je me souviens pas quand j'ai, pour la première fois, voté. Je me souviens avoir voté plusieurs fois à l'étranger, parce que j'ai eu la chance de vivre plusieurs fois, voilà, plusieurs années à l'étranger. Et c'est aussi quelque chose de très particulier quand on est citoyen français, loin du pays, de sentir que, même à distance, quelque chose de notre expérience peut compter.
Alors c'est un texte justement qui d'une certaine façon répond à ces questions que vous nous avez écrites ce matin. J'aimerais bien que vous nous le lisiez.
Oui, c'est une ballade que j'ai composée hier, un petit poème que j'ai composé en allant voter qui s'appelle « Ballade pour celle qui va voter ». Je tiens mon enfant par la main, sa petite paume dans la mienne, et nous marchons vers le bureau de vote. Quelques dizaines de mètres nous en séparent et quelques dizaines d'années qui sont précisément la distance entre deux générations. Et je pense à ce qui les relie les unes aux autres, à travers le temps et l'espace, et parfois des grands rêves ou des grandes peurs. Sur ce chemin, je pense à ceux qui, avant moi, ont parcouru ces quelques mètres, à ceux que j'ai accompagnés, enfants, dans un bureau de vote, ma petite paume dans la leur, pour qu'ils y déposent un bulletin. Et je me souviens de cette vieille comptine qu'on chantait à tue-tête. Bulletin, 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 tintin. Tintamarre, 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 mar, mar. Nous marchons, mon enfant et moi, sans tintamarre, en silence, dans le même silence un peu solennel qui résonnait quand j'accompagnais mes parents les jours d'élection. Je savais que ce moment était sacré, presque religieux au sens étymologique, un temps qui nous fait nous sentir reliés, un moment où une génération dit à la suivante « Sache qu'un jour viendra ton tour ». Mais la file d'attente est longue, et je finis par dire à l'enfant « Si on chantait quelque chose ». Depuis des jours et des jours, un refrain me trotte dans la tête et je lui glisse à l'oreille. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Depuis des jours et des jours, j'écoute ceux qui créent de fausses équivalences, qui relativisent les dangers des extrêmes. Et j'ai envie de leur dire, t'as la mémoire qui flanche, tu te souviens plus très bien de ce à quoi nous mène la nostalgie du passé, le fantasme de la pureté, la haine de l'étranger. Mon enfant se faufile avec moi dans l'isoloir. Mais jamais nous n'avons été moins isolés. Il me tend l'enveloppe. Jamais nous n'avons été autant enveloppés de souvenirs, d'héritages, de fantômes du passé. Et il me semble qu'il y a beaucoup de monde autour de nous quand quelqu'un dit « à voter ». Et en rentrant du bureau de vote, nous avons ri et même récité des poèmes. J'ai parlé à mon enfant d'une poésie que je lui ferai lire un jour. Un homme y raconte qu'à chaque fois qu'il se rend au restaurant, il insiste pour que la serveuse ne change pas la nappe et laisse devant lui les taches et les miettes de ceux qui l'ont précédé. Pourquoi ? Simplement, dit-il, pour se souvenir qu'on a vécu avant lui. Et peut-être qu'il faudrait en faire autant au jour du scrutin. Voter dans la conscience qu'on a vécu avant nous et que l'histoire envoie des messages comme des miettes sur une nappe, les enseignements d'un passé qu'il ne faut jamais oublier. Ne pas laisser la mémoire flancher et se souvenir très très bien de tous ceux qui avant nous, ont su changer l'avenir sans amnésie du passé, de l'histoire d'un pays qui a accueilli des hommes et des femmes venus de très loin pour gagner le droit d'y voter. C'est aussi leur souvenir qui, ce matin, me tenait par la main.
Au fond, c'est une histoire de transmission.
Oui, c'est l'histoire de la force de ce qui nous relie, de ce qui nous relie à notre histoire, à notre famille, à nos ancêtres, et puis de ce qu'il y a sur les épaules d'une nouvelle génération qui en hérite.
Merci infiniment, Delphine Horviller, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle quand même au passage que votre dernier livre, « Vivre avec nos morts », est publié chez Grasset. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, avec Dove Alphon de Libération. C'est juste après ça. Harding, ça s'appelle Lawn et il est 9h40 sur France Inter. C'est l'heure de Sonia De Villers, l'instant M